Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews Histoire de Timeline en partenariat avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir David Chantran, qui est historien et directeur du patrimoine de Rueil-Malmaison, pour son ouvrage passionnant, Chronique des territoires. Bonjour David.
Bonjour.
Grâce à vous, grâce à ce livre, on fait vraiment un tour de France, ça c'est formidable. Est-ce qu'on peut dire que la nation, avant vraiment d'entrer dedans, la nation s'est forgée à coups de guerre et de grands personnages ?
Alors on en parlait justement off, avant d'arriver dans la salle. La nation, c'est une notion, j'allais dire, une notion qui est très actuelle. C'est-à-dire qu'on se pose des questions de savoir si notre unité nationale existe toujours. Et nous en sommes à la
surtout
fois...
Surtout en ce moment.
Mais oui, on en est à la fois les héritiers et les dépositaires. Et hélas pour nous, la nation, on appelle de ses voeux cette unité nationale lorsqu'il y a des drames, lorsqu'il y a des attentats, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des moments dramatiques de manière générale. Or, il s'avère que les Français portent leur nation en eux. On a tous, mesdames et messieurs, des parcours différents. On vient d'horizons différents, de régions différentes. Et pourtant, elle est chevillée au corps par des événements marquants. Je parlais tout à l'heure du sacre de Clovis à Reims. C'est un moment qui a constitué notre nation d'un point de vue religieux, évidemment. Mais lorsqu'il a fallu se défendre, lorsqu'il a fallu avoir un objectif commun, eh bien, la nation, c'était véritablement ce qui nous a permis d'être plus forts et d'avoir cette unité. Parce que je vous rappelle que jusqu'en 1418, par les dialectes, par les différences culturelles, il n'y avait rien de commun entre un Breton, un Alsacien, un Basque et un Corse. Et pourtant, on nous apprenait, et en particulier les hussards noirs de la République, que bien sûr, nos ancêtres les Gaulois, que bien sûr Charlemagne, que bien évidemment Louis XIV ici à Versailles avait rêvé d'une puissance française. Mais la puissance française, elle passe à travers le cœur des Français, et il faut vraiment défendre cette unité nationale, coûte que coûte, j'allais dire, quoi qu'il en coûte.
La nation, c'est une histoire commune, un patrimoine commun et une culture et une langue commune.
Et une langue, et cette langue, elle ne s'est pas faite évidemment en un jour, mais c'est un attachement.
Oui.
C'est un attachement par des grands textes de littérature. Lorsqu'on pense à la langue française, on dit toujours la langue de Molière. Quand on sait qu'il n'y a pas de manuscrit de Molière,
c'est ce que j'allais dire.
C'est tout le paradoxe des Français.
C'est magnifique.
Et justement, ce paradoxe, c'est ça qui nous fait notre richesse. On est construit sur des paradoxes. Parce que les régions, si vous regardez bien encore aujourd'hui, on tente par tous les moyens, on vous parle maintenant de territoires. Et j'en suis le premier, hein, les chronies des territoires. Ces territoires, c'est quelque chose d'un peu impersonnel, si l'on peut dire. On n'a pas toujours tendance à se rappeler que, tout d'abord, il y a eu des provinces, qu'ensuite les régions, les départements, avec la Convention qui crée ces départements. Et je ne sais pas si je rappelle un petit événement qui est important. À l'époque, on constitue les départements... Parce qu'il faut faire en une journée à cheval la distance qui sépare la préfecture de la frontière la plus éloignée du département, aller-retour. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, tout ça n'a aucune importance. Maintenant qu'on le fait avec l'avion, avec la voiture, enfin, les distances sont différentes. Et pourtant, si vous regardez bien, que ce soit les Vosges qui m'est très cher, ça rappelle au moins un élément montagneux. Lorsque vous parlez du Var, autre paradoxe, le Var, c'est un département qui a été construit de manière un peu provisoire après l'entrée de Nice et de la Savoie en France en 1860. Or, le fleuve Var ne passe pas dans le département du Var. Mais ça ne gêne personne. Ce qui signifie qu'en réalité, les Français sont beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus intelligents qu'on veut bien leur dire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes acceptent des transformations administratives, ils en font leur et ils permettent justement de s'écrire une histoire commune en dépit justement de tous ces paradoxes. Et d'une certaine manière, j'allais le dire, c'est très français, cette façon de faire. On dépasse tous les clivages, on dépasse toutes les volontés de nous séparer en essayant de construire une histoire commune, quels que soient les régimes politiques, quelles que soient les personnes qui sont à la tête de notre nation. Et quand il y a des moments où il faut s'unir, se défendre, avoir cette écriture commune de notre histoire, eh bien les Français savent se soulever en dépit de tout ce qu'on veut bien raconter contre eux.
Si vous voulez mon avis, les Français sont surtout nuls en géographie et ils ne savaient pas cette histoire du Var. Mais enfin, ça, c'est de vous à moi, on est entre nous, personne ne l'entendra. D'ailleurs, puisque vous citiez les Vosges et les départements, les Vosges ont été le premier département à payer l'impôt sous la Révolution et ils ont eu le droit à la place des Vosges.
À la place des Vosges, qui était l'ancienne place royale, effectivement. Mais ça montre aussi un attachement à des convictions.
Oui.
Et ces chroniques des territoires, c'est ça. Lorsqu'on voit, par exemple, que la Bourgogne, qui était quand même un des territoires les plus incroyables avant que la puissance même royale française ne soit affirmée, cette Bourgogne, elle va revenir à Philippe le Hardi. Vous savez, père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Cet enfant qui n'était pas destiné à devenir un grand chef de guerre, il a défendu son père, le roi de France, et en apanage, il reçoit la Bourgogne. Alors les Bourguignons sont un peu craintifs en voyant ce personnage arriver. Eh bien, Philippe le Hardi va donner cet espoir aux Bourguignons en disant « Peut-être un jour allons-nous arriver dans le giron français. Mais cette particularité bourguignonne, on va essayer de la défendre. » Et si vous regardez bien aujourd'hui, j'allais dire la Bourgogne, c'est quoi ? Si on la résume, c'est le vin de Bourgogne, les escargots de Bourgogne, c'est la tradition bourguignonne.
On va se faire des potes là quand même.
On va se faire des potes, mais il y a au-delà de ça. Au-delà de ça, allez visiter Dijon. Allez visiter les vignobles. Il n'y a pas justement que le vin dans les vignobles. C'est aussi une volonté de rappeler que cette tradition de la culture de la terre, elle forge notre nation. Quand on sait que, par exemple, en 1789, 91% des habitants étaient des agriculteurs, eh bien, cette tradition, on la porte encore en nous. On est tous soit fils ou petit-fils d'agriculteurs, ou on a une tradition qui nous rattache à notre terre. Et ça, c'est typiquement français. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, pour les Italiens, qui ont des velléités différentes. C'est beaucoup moins le cas, évidemment, des Allemands et des Espagnols. La terre française, ça reste notre attachement premier. On est des terriens, alors qu'on est, c'est tout le paradoxe toujours, alors qu'on est environné de mers et d'océans, et on a cette tradition qui nous rattache toujours à notre terre et à notre patrie commune. C'est quand même étonnant. De ce point de vue-là.
Alors moi, j'ai un regret dans ce livre que j'ai vraiment adoré. Hein. J'ai vraiment voyagé et adoré. J'ai appris des choses en plus, j'adore ça. Mais que vous n'ayez pas parlé du Dauphiné. Mmh. C'est dommage parce que le Dauphiné aurait pu partir du giron du Royaume de France. Et en échange de le conserver, le premier fils du roi sera appelé le Dauphin. Et ça vient de là. Et c'est dommage que vous ne l'ayez pas...
J'aurais pu le faire.
C'est une jolie histoire.
J'aurais pu le faire. Et moi qui suis originaire par mon arrière-grand-père de l'Auvergne, je ne parle pas non plus de l'Auvergne. Alors j'ai des grands amis à Clermont-Ferrand qui me disent « Mais toi qui es quand même chanteuranne, l'endroit où chantait la reine, la grenouille, tu parles pas de ta région d'origine. » J'aurais pu parler de Toulouse, j'aurais pu parler effectivement du Dauphiné. Mmh. Mais je voudrais quand même juste te dire une chose. J'en parle pas directement, comme d'ailleurs je parle pas de la Bretagne, ça va vous paraître étonnant, mais pourtant, je parle du mariage d'Anne de Bretagne. Mmh. Quel moment marquant où la Bretagne va justement entrer dans la France à part entière avec ce double mariage d'Anne de Bretagne. Je parle aussi de la Bretagne un petit peu au moment où François Ier cherche à donner une grande mission à un explorateur que vous connaissez, qui est Jacques Cartier. Il le fait au Mont-Saint-Michel et ensuite Jacques Cartier va préparer à Saint-Malo. Donc je parle un peu de la Bretagne à ce moment-là. Mais pour revenir justement au Dauphiné, j'en parle un petit peu. En 1860, lorsque Napoléon III, qui est un des derniers grands souverains qui va réunir les Français, en particulier avec Nice et la Savoie, ben je parle du Dauphiné parce que Napoléon III et Eugénie font une halte très importante en Dauphiné, en montrant que ce territoire qui était passé du côté de la maison de Savoie, et pour cause, eh bien, son attachement à la France, il est très fort. Et depuis 1860, eh bien, ce Dauphiné, il est redevenu français. Et j'espère qu'il le restera pour l'éternité.
A priori, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison.
Pour l'instant,
il y a quand même des velléités aussi des Savoisiens. Il y a des défenseurs d'une indépendance savoisienne assez virulente.
Il y a un FLNC, le Front de Libération Nationale de la Creuse.
Ouais, comme la Corse.
Mais c'est très marrant.
Mais quand même, ça montre aussi que malgré les dissensions, les aspirations des uns et des autres, si vous faites des référendums encore aujourd'hui, même dans les îles, Nouvelle-Calédonie, d'autres, il y a un attachement quand même à la France. Alors, on va se dire toujours, oui, mais il y a l'université, il y a le caractère des Lumières, tout ça, c'est un attachement. Non, il y a autre chose. Et malgré les difficultés administratives, le fait que certains chefs d'État aient dit « nous sommes la puissance importante de Paris qui décide de tout », il y a autre chose qui nous unit. Et quand vous allez visiter des régions, lorsque vous êtes par exemple ici de Versailles et que vous allez vous rendre dans le midi de la France ou à Lille, eh bien, par exemple quand vous allez à Lille, vous pouvez vous dire nous avons Louis XIV ici à Versailles. Mais lorsque je vais à Lille, j'ai la fierté de découvrir que c'est Vauban qui a repris la ville, évidemment aux troupes espagnoles de l'époque, et qu'il en a fait ensuite une défense si admirable que Louis XIV l'a fait gouverneur de la ville de Lille, et que Lille, elle a une fierté aussi à être devenue française à cette époque, même si le siège s'était passé dramatiquement, mais ça, il faut peut-être essayer de l'oublier.
C'est la guerre. Il y a la religion qui est importante, ouais. À tel point que vous avez mis Richelieu en couverture. La religion, c'est le fil rouge quasiment aussi. Oui. Dès Clovis.
Oui, le fil rouge, alors... On peut mettre à part évidemment les épisodes précédents avec Marseille parce que la religion n'était pas encore là,
pas
ni Claude, mais effectivement dès la défense de Paris, Geneviève en appelle à son Dieu, celui qu'elle appelle son Dieu. Elle prie avec les femmes pour justement donner un peu de courage aux hommes qui en manquent. Vous voyez, ça date pas d'hier, mesdames. Donc Geneviève tient absolument, coûte que coûte, à ce que Paris se défende par la prière, par la défense physique aussi, hein, et militaire, mais en disant, en étant ensemble, on va pouvoir repousser Attila et ses hordes. Alors Attila va disparaître parce qu'il va contourner la ville de Paris, parce que son objectif premier, c'est Orléans. Mais lorsqu'ensuite il va être battu sur les champs cataloniques, eh bien on dira, mais Geneviève a été une admirable défenseur de la ville. Et d'ailleurs, on aura besoin d'elle à d'autres moments de son histoire. Donc, vraiment, c'est le fil rouge, effectivement. La religion, ça nous unit. Et même si certains veulent un peu abattre, on en parlait tout à l'heure, nos églises, notre patrimoine religieux, il faut y rester attaché. Parce que c'est ce qui nous relie à nos anciens. C'est ce qui nous relie aussi à notre civilisation. Et il faut que ça soit une fierté. Il ne faut pas l'utiliser comme un emblème de manière différente, en se disant que c'est pour se le faire contre les autres. Au contraire, il faut, je crois, accepter les différences, mais le faire en disant qu'on a un patrimoine religieux qui permet justement d'accepter l'autre, quel qu'il soit. Et ça, c'est aussi le produit de notre histoire.
Ça fait du bien d'entendre des historiens comme ça. Paris a mis du temps avant de devenir une capitale.
Bien sûr, elle ne s'est pas faite en un jour,
non.
Hein, ni comme la tour Eiffel. C'était compliqué. C'était compliqué parce que les rois, je vous rappelle, avaient cette tendance à être itinérants, parce que selon les envies de chasse, ils avaient des forêts giboyeuses. Donc par exemple, Dagobert a fait son palais royal à Clichy. Et puis ensuite, Louis II le Bègue va à Compiègne. Et puis ensuite, vous savez que nos rois ont beaucoup aimé les bords de Loire. Mais il y a aussi... le produit de l'histoire de cette époque. Et lorsque Jeanne d'Arc vient chercher le dauphin Charles pour l'installer ensuite à Reims et faire en sorte qu'il s'affirme comme roi, bah Paris, on l'oublie un petit peu à cette époque-là. Et pourtant, eh bien on va y revenir. Et le roi qui va finalement faire beaucoup pour Paris, c'est pas celui auquel on le destinait, ça va être Louis XV. Louis XV, je vous rappelle un peu l'histoire, on est ici à Versailles. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qui est Louis XV, mais quand même, c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Il règne, c'est l'un des derniers survivants de cette extraordinaire lignée. Il règne, il a 5 ans de Louis XIV. Il a 5 ans quand il devient roi. On va donc instaurer une police inaudite. Donc on revient avec des ministères que Louis XIV avait écartés et on comprend pourquoi. Parce que le régent, Philippe d'Orléans, souhaite que Paris redevienne capitale. Et Louis XV, bah, petit comme il est, il suit. Et puis arrive un moment, un événement majeur de son histoire, j'aurais pu raconter, je l'avais fait dans un livre précédent qui s'appelait « Les 10 rendez-vous qui ont changé le monde ». Il y a un moment important de notre histoire, c'est la rencontre entre le petit Louis XV qui a 7 ans, en 1717, avec l'immense, dans tous les sens du terme, Pierre le Grand. Pierre le Grand, le tsar des Russies, qui arrive en Europe et qui découvre, et qui va devenir très influencé par l'Europe. Et il voit cet enfant qui l'accueille et qui est quand même le roi de France, malgré la différence de taille entre les deux hommes. Il le prend dans ses bras, il l'embrasse sur le front en lui disant « Vous êtes plus grand que le monde ». Il le repose, il est admiratif de cet enfant qui règne sur un territoire énorme, parce que la France de l'époque, c'est 25 millions d'habitants. C'est la puissance considérable avec ses armées et tout ça. Et puis l'influence française culturelle, Racine, Boileau, Corneille... Molière, on l'a dit, La Fontaine. Ben, bref, ça a influencé durablement l'Europe de l'époque. Et Louis XV se dit, je vais l'inviter, ce grand tsar, à visiter mon royaume. Et le seul vœu que fait Pierre le Grand, c'est de découvrir Versailles. Et il dit à Louis XV, mais vous avez un palais magnifique. Donc Louis XV lui dit, ah bon ? Ben j'ignore, moi j'ai 7 ans, j'ai quitté Versailles, j'étais tout petit. Donc Pierre le Grand, il va à Versailles. Il découvre, et d'ailleurs il est assez critique, il dit que c'est un aigle aux ailes de pigeon. Ça veut dire que c'est un immense bâtiment, hein. C'est vrai qu'il a un corps extraordinaire, et puis il y a des petites ailes de chaque côté. Mais il est impressionné par les jardins, par les salons, et c'est ce qu'il va faire de retour à Saint-Pétersbourg, dans sa capitale, pour justement construire une ville à l'image de ce qu'il a vu à Versailles. Bref, Louis XV est très impressionné. Un an avant sa majorité, à son entourage qui veut absolument que Paris soit la capitale, ce qu'elle va rester quand même, même si Louis XIV était venu à Versailles, Louis XV dit à son entourage, je veux revoir le château de mon arrière-grand-père. Il arrive ici à Versailles, il visite les salons qui sont quasiment désertés, il s'installe dans la galerie des glaces, il s'allonge sur le dos, il regarde son arrière-grand-père qui est en face de lui et il dit à son entourage, la cour revient au château. Et de nouveau, la gloire française reprend vigueur. Pour répondre à votre question, Paris finalement va se faire par ses étapes dans des lieux différents, mais l'attachement commun, selon les cas, selon les rois, selon les régimes, l'attachement commun, ça reste Paris, parce que la Seine, ça reste quand même le fleuve sur lequel notre histoire commune s'est construite, et même Louis XV en était conscient.
Et du coup, Louis XIV le signalait fort, hein, de mettre Versailles, enfin de mettre la cour à Versailles et non pas à Paris. Il en avait très peur.
Il avait eu très peur avec la Fronde, évidemment. Et puis les combats qui s'étaient déroulés. Et j'allais dire, celui qui va malheureusement hériter de cette difficulté avec la vie parisienne, ça va être Louis XVI.
C'est le 16e.
Ouais. C'est Louis XVI qui va avoir beaucoup de difficultés. On le sait, même s'il avait réuni les états généraux ici à Versailles, tout cela va partir ensuite à Paris. Et le boulanger, la boulangère et le petit mitron vont faire cet adieu à Versailles en octobre 1789 et ne reviendront jamais dans leur château.
Là, il y a une jolie histoire. C'est vrai que j'avais complètement...
Je raconte d'ailleurs Marie-Antoinette, ce départ de 89.
Exact. La jolie histoire que j'avais complètement oubliée, pourtant Napoléon, j'ai bien connu, sur Napoléon à Grenoble. Et c'est vrai qu'il y a un avant et un après, le moment où il dit « je ne suis plus le même en fait ».
Alors, je rappelle un peu le contexte historique pour nos amis ici. Napoléon est donc parti, vous avez tous peut-être vu le film de Ridley Scott, donc on parle beaucoup de Napoléon aujourd'hui. Napoléon est parti à l'île d'Elbe, contraint et forcé, puisque c'est un exil où on l'envoie après l'abdication de Fontainebleau. Nous sommes donc le 4 avril 1814, puis le 6 avril, il abdique sans condition, et il part vers l'île d'Elbe. Il va y rester 300 jours. Et dans le traité de Fontainebleau, il était prévu trois choses. Tout d'abord, qu'il reçoive 2 millions de francs or de la part de Louis XVIII. Vous imaginez le roi de France qui lui envoie un petit chèque en lui disant « Voilà, ça va subvenir à vos besoins ». Évidemment que non. Napoléon, ça reste l'usurpateur. L'homme qui s'est fait de lui-même et qui a conquis le pouvoir en Brumaire et qui a fait en sorte que la France s'accepte telle qu'elle était entre l'Ancien Régime et la Révolution. Donc, Napoléon ne verra jamais l'argent qui était destiné. La deuxième chose, c'est qu'au Congrès de Vienne, les puissances continentales s'unissent pour demander à ce qu'on éloigne Napoléon, soit aux Açores, soit peut-être même déjà à Sainte-Hélène. Et puis la troisième chose, et non des moindres, c'est qu'il y a des rumeurs d'empoisonnement ou d'assassinat autour de sa personne à l'île d'Elbe. Donc Napoléon, son sang ne fait qu'un tour. Le 26 février 1815, il reprend le bateau, il part en direction de Golfe-Juan, où il débarque le 1er mars, et il s'engouffre sur une route qui n'est pas la Provence, qui est très royaliste, mais il remonte en direction de Grenoble. Et vous avez tout à fait raison, après ces différentes étapes, à quelques encablures de Grenoble, il est arrêté par la troupe royale qui a pour ordre de tirer sur lui. Et Napoléon va faire un grand coup de poker. Il ouvre sa fameuse redingote en disant face à ses anciens soldats qui sont en face de lui, s'il en est un qui veut tuer son empereur, me voici. Vous imaginez la responsabilité du tireur ? Si ça s'appelait Monsieur Schmurtz, ça fait 4 générations de Monsieur Schmurtz qu'on dirait vous êtes les assassins de Napoléon.
C'est le Judas
national. Donc personne ne prend la responsabilité, les fusils s'abaissent, tout le monde crie vive l'empereur et le porte en triomphe à Grenoble. Et donc pour terminer sur votre question, il arrive à Grenoble et il a cette fameuse phrase, il dit jusqu'à Grenoble j'étais aventurier, arrivé à Grenoble, je suis redevenu prince.
C'est extraordinaire.
Et cet événement, qui est, j'allais dire, inutile d'un point de vue politique, qui va être dramatique, parce que ensuite, après Waterloo, le coût de ce qu'il va falloir payer à l'Europe, il est terrifiant. C'est-à-dire que Napoléon, c'est une responsabilité terrible sur la France qui va devenir plus petite qu'elle n'était avant lui. Mais même le général de Gaulle, lorsqu'on lui parlait de cet épisode avec Malraux qui était face à lui, il disait « Je n'aime pas beaucoup Napoléon, mais on ne négocie pas avec la grandeur. » Et c'est exactement ça, Napoléon. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, non seulement il ne laisse pas indifférent, mais les 240 réformes qu'il a laissées derrière lui, en particulier le code civil, il le dit d'ailleurs, il dit 40 batailles seront effacées par Waterloo, lorsqu'il était à Sainte-Hélène, il disait ça. Hein. 40 batailles seront effacées par Waterloo, ce qui restera éternellement, c'est mon code civil. Parce que ce code civil, on en est aujourd'hui les héritiers et les dépositaires, et les 240 réformes, c'est le cadastre, les prud'hommes, les lycées, la Banque de France, la Légion d'honneur, enfin, c'est l'éducation, Napoléon. C'est le lycée et c'est le baccalauréat. Eh bien, tout cela, on en a hérité, et même les régimes après lui n'ont jamais voulu mettre un trait à cela. Ça signifiait qu'il avait au moins compris l'esprit français, et que c'est exactement ce que vous avez dit. Lorsqu'il arrive à Grenoble, il se rend compte que l'histoire, elle est plus forte que lui, qu'il va falloir qu'il s'efface après une dernière défaite. Il n'y croit pas encore à Grenoble, mais il va comprendre les choses rapidement. Parce que la première élection libre que l'on fait en France, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est au retour de Napoléon. Il organise des élections libres et il se rend compte au moment où il proclame les résultats le 1er juin 1815 que les, on ne sait pas le mot encore, mais les bonapartistes sont minoritaires dans le pays. Ils ne font pas 25% des votes. Les royalistes sont en force et face à eux, les libéraux. Donc Napoléon va faire obligé d'être composé avec les libéraux, notamment Benjamin Constant. Mais de cette union entre l'ordre d'un côté napoléonien et les libéraux, si vous regardez bien encore notre régime politique actuellement de la Ve République, c'est exactement ce qu'a fait le général de Gaulle.
Absolument.
Un peu de liberté et un peu d'ordre. Et on y est exactement très attaché.
Comme quoi les temps changent. Hein. Vous imaginez Macron dire qui veut tirer sur... Enfin, ils seront 500 à tirer sur... Bon, je plaisante, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions? Je plaisante. Non, est-ce ça, il ne le fera
est-ce
pas.
Que
est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions?
Il y a des milliers de questions qu'on aimerait vous poser. Livre, il est formidable. Je... Hein.
Non, mais dans le livre, j'arrête avec la rencontre, une très belle rencontre. C'est un moment important de notre histoire. Je raconte dans un des épisodes le fameux partage de Verdun. Vous savez que les petits-fils de Charlemagne, en 843, se sont partagés l'Europe de Charlemagne en disant trois bandes à peu près égales entre Charles, Louis et Lothaire. Et évidemment, pour Lothaire, c'était difficile, il était au milieu des deux. Donc, entre Charles d'un côté et Louis de l'autre, il est obligé de composer. Mais ce partage de Verdun, ça a été notre drame. Parce que nos cousins germains, on n'a jamais cessé de s'opposer, même s'il y avait les Anglais, on n'a jamais cessé de s'opposer. Eh bien, De Gaulle, alors qu'il arrive au pouvoir en 58, l'une des premières grandes rencontres qu'il organise, c'est d'inviter Adenauer à venir, non pas à Verdun,
non,
mais c'est presque l'esprit, à venir à colomber les deux églises. Il l'invite chez lui. C'est la seule et unique fois. Il l'accueille chez lui, bien sûr, à la Boisserie. Il passe l'après-midi de rencontres diplomatiques, en discutant un peu du sort de l'Europe. Et le soir, alors qu'il aurait pu repartir, le chancelier, il va loger chez Yvonne et il va être un des invités d'honneur du général. Que se sont dit ces deux hommes, que tout opposait, même s'ils ont fait la guerre pour la liberté de chaque côté finalement, parce que Adenauer était avocat et s'était opposé au pouvoir des nazis. Il en avait d'ailleurs failli perdre la vie. Donc, que se sont dit ces deux hommes pour mettre fin aux différends de Verdun? Que se sont-ils dit quand on voit cette Europe qui a été déchirée pendant tant d'années? Eh bien, cette rencontre de Colombey, je peux vous assurer que pour moi, c'est à mon avis la fin de notre histoire, parce que c'est autre chose qui s'est écrite après, et que d'une certaine manière, il faut toujours se rappeler que quand on est même opposé, eh bien, une rencontre peut parfois changer le sort de notre nation. Et c'est ça que j'ai voulu raconter.
Une belle pièce de théâtre à écrire.
Exactement, exactement.
David Chantran, vous êtes formidable, mais ça on le savait. Donc, chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. Il en reste 4 ici aujourd'hui. Mais enfin, il y a quand même encore aussi des libraires dans ce pays. Donc profitez-en, offrez-le, à moins que vous ayez des questions. On va devoir vous laisser pour aller signer les 4 qui restent.
Eh bien, grand plaisir. Merci beaucoup de votre attention. Merci mesdames et messieurs.